Radio Burier.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Burier. Aujourd'hui, nous allons écouter plusieurs étudiants de la 2M9 débattre.
Effectivement, ils vont débattre d'un sujet d'actualité qui est le nucléaire. En effet, suite aux événements de Fukushima, le sujet est revenu sur le devant de la scène.
Nous allons tout d'abord faire une rapide présentation des arguments des deux parties, avant de passer au cœur du débat. Nous terminerons par une petite conclusion. Et le tout sera entrecoupé de plusieurs musiques.
Alors, avant la première partie, nous allons passer une musique des Cowboys Fringants, Plus Rien.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif.
Nous allons à présent laisser une minute par groupe afin qu'ils présentent leurs arguments clés sur notre débat du jour, pour ou contre un avenir proche sans nucléaire.
Donc maintenant la parole à Siméon et Aurélie qui seront pour.
Aurélie et moi sommes pour un avenir proche sans nucléaire car il y a premièrement un risque fort d'accident. On l'a vu au Japon, les centrales nucléaires, malgré toutes les promesses qu'on nous fait, ne sont pas sûres. Les centrales nucléaires ne sont aussi pas neutres en CO2. C'est vrai qu'une centrale en elle-même ne rejette pas de CO2, mais toute la filière, en revanche, en rejette beaucoup. C'est une énergie ça demande beaucoup d'énergie pour la transformer en carburant. Le problème des déchets n'est aussi pas du tout traité. Nous ne savons pas ce que nous allons faire de ces déchets. Et l'uranium ne nous garantit pas une indépendance énergétique, car l'uranium, nous sommes obligés d'aller le chercher à l'étranger, contrairement au soleil ou au vent. Nous pensons qu'il y a de nombreuses économies possibles. Environ 75% du nucléaire suisse actuel, par exemple grâce aux lampes économiques, au chauffage ou en faisant plus d'isolation. Et nous pensons que les énergies renouvelables peuvent utiliser les 25% restants, ou un gaz pour la transition. De plus, les énergies renouvelables créent beaucoup d'emplois.
Moi, je crois que ces arguments de sortie rapide et immédiate du nucléaire sont triplement hypocrites. Premièrement, car les économies d'énergie sont absolument insuffisantes pour combler les 40% de production nucléaire actuelle. Que l'énergie renouvelable n'est pas si écologique qu'on le prétend et que finalement le rapport de gains et de pertes n'est pas forcément positif. Et que si on sortait du nucléaire, il nous faudrait importer de l'énergie à l'étranger qui serait déjà plus chère et également de production nucléaire. Donc en fait, on va exporter nos centrales à l'étranger, ce qui est encore moins correct que de garder notre production autonome. Je pense qu'il faut donc nous baser sur une énergie forte pendant encore au moins 50 ans et ensuite on pourra voir avec le temps et avec un développement durable déjà aujourd'hui pour faire avancer les choses. Vous avez aussi parlé du vrai problème, c'est-à-dire d'un passage transitoire au gaz et aux fossiles, parce qu'on voit bien que les buts de changement immédiat sont impossibles.
Merci à vos quatre pour cette brève présentation. Avant de rentrer dans le cœur du débat, voici une petite pause musicale. Écoutons donc Respire de Mickey 3D.
Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
Maintenant, passons la parole aux quatre intervenants afin qu'ils débattent pendant environ une dizaine de minutes sur le sujet, comme annoncé, pour ou contre un avenir proche sans nucléaire.
Alors, pour commencer ce débat, j'aimerais me demander quelles solutions précises et qu'est-ce qu'ils envisagent précisément pour changer le nucléaire. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, c'est près de la moitié de notre production qui est faite avec cette énergie-là. Et qu'en plus, on va augmenter notre population de 3 millions d'habitants dans les 25 prochaines années, ce qui signifie qu'avec une population presque deux fois plus nombreuse, il faudra également beaucoup plus d'énergie. On veut essayer de passer aux voitures électriques de plus en plus, et il va aussi falloir utiliser cette énergie. Il y aura bientôt plus de pétrole, ce qui va aussi favoriser les transports publics qui fonctionnent avec l'électricité. Et ce n'est pas avec quelques éoliennes qui produisent moins de 150 fois une production 150 fois inférieure aux petites centrales nucléaires qu'on va réussir à pouvoir relever tous ces défis. Donc moi, je pense que pour l'écologie et pour le développement, il est important de pouvoir garder une source relativement sûre, en tout cas qui, en proportion de l'énergie produite, est beaucoup plus sûre que les autres sources qu'on connaît aujourd'hui.
Peut-être, mais il peut y avoir d'autres solutions, notamment de transition. Il y a celle de Chavalon qui peut être mise en service, également à Corneau dans le canton de Neuchâtel. C'est pour la transition. Après, rien n'empêche d'avoir gentiment des nouvelles énergies, pas forcément que de l'éolienne ou que du solaire. Il y a la géothermie, comme le canton de Genève souhaiterait le faire. Ça peut déjà faire un canton qui soit entièrement par d'énergie renouvelable, ça n'empêche rien.
Mais dans toutes les énergies renouvelables, la question se pose du rendement et puis des risques qui ne sont pas forcément considérés, notamment dans le cas de la géothermie.
Bah, le rendement, il sera peut-être moins fort que le nucléaire, mais il sera toujours meilleur que de l'éolienne, par exemple.
Alors pourquoi dépenser des coûts tout de suite pour passer directement à des énergies renouvelables, alors qu'on devrait plutôt investir dans la science pour améliorer ses rendements et à plus long terme mettre plus d'énergies renouvelables?
Moi, j'ai bien parlé de transition au début.
Mais le nucléaire est une transition idéale, étant donné qu'on a déjà les installations, donc elles sont déjà payées. On n'a pas besoin d'investir des milliards pour recréer des vieilles centrales, des vieilles installations thermiques inutilisées depuis longtemps qui polluent beaucoup plus, produisent du CO2. Et aujourd'hui, le risque d'effet de serre est bien plus proche et bien plus réel que le risque d'incident nucléaire, en tout cas pour un pays développé comme le nôtre.
Mais le Japon, ça me semble aussi être un pays développé, pourtant. On peut dire
mais
qu'il
c'est
y a
la
pas
zone
un léger accident nucléaire. Justement, moi j'aimerais bien aussi revenir sur les nouvelles centrales nucléaires. Alors tu dis que il faudrait remettre en service des vieilles centrales à gaz. À mon avis, moi j'ai plus peur des vieilles centrales atomiques. Mühlberg, c'est 69, elle a bientôt 50 ans. Donc il y a même des fissures sur le réacteur. Personnellement, j'ai bien plus peur des vieilles centrales nucléaires que d'une centrale à gaz. Mmh. Et aussi une centrale nucléaire, comme il se trouve en Suisse, si on doit garder le nucléaire, comme tu dis, une énergie de transition, on va être obligé d'en construire des nouvelles. Ça, c'est sûr. On ne peut pas garder... Mühlberg n'a pas 100 ans devant elle encore. Et donc, si on en construit des nouvelles, ça veut dire qu'il faut énormément investir dans l'énergie nucléaire. Donc, je ne pense pas qu'une centrale nucléaire, ça coûte 10 milliards de francs pièce. Et donc, si on imagine qu'il faudrait en construire deux pour avoir à peu près la même puissance qu'aujourd'hui. Et donc, ça fait 20 milliards. Donc, après, on se dit, est-ce qu'on est prêt à investir 20 milliards dans une simple énergie de transition?
Mais l'énergie de transition ne coûterait pas si cher, étant donné que c'est seulement Mühlberg et Betna 1 et 2 qui vont fermer dans un avenir très proche, c'est-à-dire les plus petites centrales et les moins productives. Il nous faudrait donc une seule grande centrale de troisième génération, ce qui signifie très sûr, qui produit un quart moins de déchets radioactifs que celle d'aujourd'hui, qui coûterait moins de 10 milliards avec les technologies qu'on a pu voir en France, qui serait beaucoup plus protégée contre tout type de séisme, qui aurait survécu au séisme du Japon, par exemple. Et on voit que pour tenir 50 ans, on aurait besoin que d'un seul réacteur puissant qui ferait le travail de toutes ces centrales thermiques et beaucoup plus dangereuses si on regarde également plus loin que la simple production. Par exemple, le pétrole amène des guerres dans certains pays, ou le gaz, avec le chantage russe qu'on a pu voir ces dernières années, n'est pas beaucoup plus sûr pour notre avenir économique. On pourrait être amené finalement à devoir prendre des décisions rapides et pas forcément aussi réfléchies qu'aujourd'hui.
Quelque chose de très intéressant à propos du chantage russe. Alors j'aimerais bien te poser une petite question. Tu penses que l'uranium qui est en Suisse, qui est utilisé dans nos centrales nucléaires, il vient d'où ?
Il vient notamment d'Afrique du Sud.
Et de Russie.
Mais l'Afrique du Sud exporte vers la Suisse et nous avons des bonnes relations avec ce pays.
Betznau et Mühlberg, on dit, les associations écologiques ont fait pression sur eux et ils ont été obligés de reconnaître que leur uranium venait de Russie, et d'une région qui est absolument dévastée, qui a été utilisée par l'Union soviétique pour justement avoir du carburant dans ses centrales. Et ce sont des régions maintenant qui sont absolument dévastées et dont la Suisse tire profit en fait. C'est très hypocrite.
Non, on ne peut pas dire qu'on tire profit des catastrophes qui ont été faites. Ce serait assez hypocrite. C'est comme dire aujourd'hui que chaque consommateur tire profit de toutes les guerres qui ont été amenées par le pétrole. Ce n'est qu'à moitié vrai. De plus, je pense que pour chaque gramme d'uranium importé, ça équivaut à une tonne de charbon. Donc, c'est le même genre de proportion pour le gaz, pour le pétrole. Donc, quand on va importer dans un pays, même si une partie vient de Russie, quand on apporte depuis un pays de l'uranium, la dépendance est beaucoup plus faible et insignifiante par rapport à la dépendance des énergies que vous proposez pour la transition.
Pourquoi ? Enfin, l'uranium qui vient de Russie, si on nous le coupe du jour au lendemain, le problème est le même que si on nous coupe le pétrole. Non, le problème d'indépendance énergétique, il est toujours là. La seule énergie qui peut nous garantir l'indépendance énergétique, ce sont les énergies renouvelables.
Non.
Ce sont les énergies renouvelables. On ne peut pas... L'uranium, il n'en a pas en Suisse. Donc, nous sommes obligés de l'importer. Le pétrole, il n'en a pas en Suisse. On est obligé de l'importer.
Et d'où viennent les matériaux avec quoi on fait les énergies renouvelables ? Les éoliennes, les centrales géothermiques et tout ça ?
Oui, mais c'est nettement moindre.
D'accord.
C'est nettement moindre que d'amener du pétrole d'amener du pétrole...
C'est bien ce qu'on dit. Amener du pétrole, c'est très difficile, surtout dans l'avenir qui va venir. Et nous, on propose donc l'uranium qui suffit de faibles quantités. Non, ce ne sera pas aussi difficile.
Chaque année, j'ai plus tout à fait le chiffre, mais je crois que c'est une boîte d'à peu près, je ne sais plus combien c'est le kilo par habitant, qui est produit chaque année en déchets. Donc finalement, les déchets seront là, de toute façon. Et les déchets, ça c'est vrai, c'est une autre chose dont on peut parler. Les déchets d'une centrale à gaz, bien sûr, bon, c'est du CO2, mais c'est du CO2 qu'on peut compenser. Il y a des projets en Suisse aujourd'hui pour compenser justement le CO2 qui est émis, alors que de compenser les émissions d'uranium, ça, on n'a pas encore trouvé. On essaye de trouver un endroit pour les enfouir. Mais par exemple, ah oui, quelque chose de très intéressant, à Nidwald, on a proposé de sortir du nucléaire, au comptant de s'approvisionner seulement en énergie non nucléaire, et ils ont refusé. Et on leur a aussi proposé de faire un dépôt de déchets radioactifs, chez eux, et ils ont aussi refusé. Donc finalement, ils ne veulent pas se passer de l'énergie nucléaire, mais ils ne veulent pas non plus avoir les déchets.
Mais quand une telle paranoïa est instaurée dans les médias et dans la pensée commune, une telle folie du nucléaire, alors que les incidents les plus graves qui n'ont pas été commis et qui n'ont pas eu lieu dans un régime communiste ou dans une zone sismique la plus dure du monde, les pires incidents nucléaires, c'est par exemple Lucent, où il n'y a aujourd'hui aucune conséquence, où la centrale elle-même est encore utilisée. Par rapport à l'énergie produite, le nucléaire est encore très sûr tant qu'il est utilisé de manière responsable. En Suisse, nos centrales résisterait à des tremblements de terre tels que celui du Japon. Rappelons qu'au Japon, c'est un tsunami qui a détruit la centrale et pas le séisme de niveau 9. D'autant plus que le séisme le plus puissant jamais enregistré en Suisse, il y a plusieurs siècles, était 2 à 300 fois plus faible que celui du Japon.
Bon, il y a quelque chose que j'aimerais quand même rajouter. Vous parlez de nucléaire ou de non-nucléaire, mais il y a quelque chose qu'on peut déjà utiliser qui est sur place. Il y a l'énergie qui est faite par les lampes. Une lampe utilise seulement 5% de son énergie pour illuminer. Le 95%, il est nul, il n'est pas utilisé. Et c'est bête. On pourrait tout à fait le convertir et l'utiliser en énergie électrique.
Effectivement, il faut utiliser toutes les sources d'énergie et toutes les sources d'économie, comme on en a déjà parlé, mais au niveau actuel des connaissances, on ne va pas pouvoir stopper ne serait-ce qu'une seule centrale nucléaire de type Mühlberg, qui est la plus faible que l'on ait.
Mais justement, tous les 20 milliards, c'est ça, d'argent qui pourrait être dépensé pour deux nouvelles centrales peuvent très bien être utilisés dans la recherche.
Et c'est intéressant aussi de savoir que maintenant en Suisse, il y a un crédit pour favoriser l'énergie renouvelable, et ce crédit, il est de 500 millions par an, et c'est beaucoup trop peu. C'est seulement un tiers des projets qui peuvent être subventionnés. Alors que si on avait un minimum de bon sens, et si certains politiciens vraiment passaient de la parole aux actes et disent ce qu'ils disent, c'est qu'il faut favoriser les énergies renouvelables, ils pourraient commencer par augmenter ce fonds, parce que maintenant, seulement un tiers des projets en faveur des énergies renouvelables peuvent avoir lieu.
Mais le nucléaire est payé en grande partie par le privé. Il faut donc trouver des institutions privées qui investiront pour le renouvelable. Ça, je suis totalement d'accord.
Mais c'est intéressant de savoir qu'il est presque plus facile de trouver des investisseurs privés pour les énergies renouvelables, qui sont une énergie d'avenir, plutôt que le nucléaire, qui est une énergie complètement dépassée.
D'accord. Alors, on a beaucoup parlé donc de transition, mais pas pour les énergies renouvelables par elles-mêmes. Il faudrait qu'on pense aussi que les gens sont peut-être pas prêts. Et on parle d'une conscience écologique assez développée pour mettre ça. On a bien vu les débats sur toutes les éoliennes et les choses comme ça. D'autant plus que la vraie solution, ce serait plutôt de réduire notre mode de consommation qu'on consomme de plus en plus chaque année.
Oui, alors ça, on est d'accord. Hein. Je suis le premier à être favorable aux énergies, aux économies. Mais c'est intéressant de parler un petit peu du renouvelable. Alors, l'énergie renouvelable, pour moi, mis à part, bien sûr, quand on parle d'indépendance énergétique, on en a déjà parlé, a aussi un énorme avantage. C'est qu'elle crée des emplois en Suisse. Avec la crise, c'est vrai qu'il y a eu des emplois qui ont été supprimés. C'est un bon moyen de relancer l'économie. C'est les PME qui prennent en charge les énergies renouvelables. C'est le poumon de notre économie, ça tout le monde le sait. Et donc finalement, si on crée des emplois dans ces PME, c'est une bonne chose pour la Suisse. Et cet argent qu'on pourrait donner pour les énergies renouvelables et pas pour les centrales nucléaires n'iront donc pas aux grands constructeurs de centrales nucléaires comme par exemple Areva, qui sont des grandes firmes françaises ou à des grandes firmes américaines. Et donc c'est un argent qui est bien investi en Suisse.
Mais notons que quand les énergies renouvelables auront une part du marché conséquente de plus de 0,2% de l'utilisation d'énergie en Suisse, peut-être qu'on pourra penser que des grandes centrales et des grandes institutions financières et économiques pourront s'y attacher, et les PME au final n'y gagneront pas grand-chose.
Bah justement, il faut donner leur chance et pas tout le temps ressasser toujours leur nucléaire.
Effectivement, mais ce que je voulais dire avant tout, c'est même au niveau renouvelable lui-même, est-ce que c'est vraiment un impact positif sur l'écologie quand on sait par exemple que les éoliennes, le solaire et même les barrages au fil de l'eau, enfin les centrales hydrauliques au fil de l'eau, n'ont pas de capacité de stockage. C'est-à-dire qu'au moment où il y a le moins de pluie, où il y a le moins de soleil et où il y a le moins de vent, c'est là qu'elles produisent le moins. Et comme par hasard, ce moment-là, c'est l'hiver, c'est où on consomme le plus. Les statistiques prouvent que les énergies renouvelables ne marcheront pas quand il fait froid. Il faudra donc des moyens alternatifs.
Alors justement, il faut commencer par isoler les maisons. Il faut changer nos habitudes. Il faut commencer à arrêter de mettre sur stand-by tous les interrupteurs. Ça fera déjà un manque à... Ça fera déjà justement pas un manque à gagner. Et vous prenez la géothermie, justement, c'est une source inépuisable, dont en hiver. Et je reviens sur le barrage de Veto-Longrain. Ils vont doubler les capacités. Et je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ce genre d'investissement sur d'autres centrales hydrauliques.
Okay, malheureusement, les écologistes ont tendance à bloquer tous les programmes de barrages et de nouvelles centrales hydrauliques pour préserver l'environnement.
Mais la mise en place des choses-là ne sont pas forcément écologiques parce que la construction a encore du progrès à faire, notamment dans le domaine de l'empreinte écologique.
Alors merci à nos quatre intervenants pour cet aperçu d'un débat qui fut bien court comparé aux heures qu'on pourrait passer à justement débattre là-dessus. Et les arguments se trouvent être justement très forts des deux côtés, alors il ne tient plus qu'à vous, téléspectateurs, de choisir votre camp. Nous allons revenir sur ces arguments forts dans la conclusion, mais ce sera juste après notre petite pause musicale avec Christophe Maé, C'est ma terre.
Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin. C'est bizarre, sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart.
Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois.
Nous sommes arrivés dans la dernière partie de notre émission et je vais à présent laisser parler une minute chaque groupe afin qu'ils vous rappellent leurs arguments phares.
Alors je suis pour un avenir sans nucléaire car il ne faut pas oublier que les risques d'accident sont toujours présents. On a beau être dans un pays relativement dans la technologie, on regarde l'exemple du Japon qui est censé être à la pointe, il y a une monstre catastrophe qui s'est passée. Et puis voilà, c'est... pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Il ne faut pas oublier d'où l'intérêt d'aller dans de nouvelles solutions.
Oui, et ces nouvelles solutions donc, nous pensons qu'il est possible vraiment de se passer du nucléaire grâce aux énergies renouvelables qui, nous vous le rappelons, créent des emplois et rend la Suisse totalement indépendante au niveau énergétique.
Et il ne faut pas oublier que nous, pour l'instant, on profite de l'énergie nucléaire, mais nos enfants, comment est-ce qu'ils vont faire si on n'a que de l'énergie nucléaire et qu'une centrale nous pète à la tronche?
Et le problème des déchets est aussi bien là. Nous ne savons toujours pas ce que nous allons faire à propos de ces déchets. Et c'est peut-être un cadeau empoisonné pour nos enfants.
Alors moi, je suis contre une sortie immédiate et précipitée de l'énergie nucléaire qui pourrait être encore plus dangereuse et plus malsaine que de rester encore un temps de réflexion tout en développant des énergies renouvelables pour qu'elles soient positives et que leur rendement ne soit pas mauvais. C'est pas seulement parce qu'il y a eu plus d'argumentation anti-nucléaire dans les musiques que dans le débat que je dis ça, mais c'est également que je suis convaincu qu'on a une proposition qui est correcte, qui est réalisable, qui a fait ses preuves pendant 40 ans. Et voilà, je crois que nous, on a fait les preuves. Maintenant, les autres, s'ils arrivent à avancer les avantages réels et non utopiques de leurs idées, ben, peut-être qu'on pourra penser à agir dans leur sens.
Et c'est aussi la question du rendement pour les énergies renouvelables qu'il va falloir développer et plutôt investir dans la science plus que la mise en place à court terme.
Merci encore à nos quatre intervenants de leur participation.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Donc pour conclure, nous pouvons constater que ce débat sur le nucléaire divise et engage plusieurs conflits de conscience. Aucune solution n'a été trouvée pour remédier durablement au problème, donc l'avenir reste ouvert. Si vous avez aimé cette émission et que vous souhaitiez en suivre plusieurs autres sur nos ondes, rendez-vous sur radiobus.fm le lundi de 20h à 21h, le mercredi de 6h à 7h, le jeudi de 13h à 14h et le dimanche de 18h à 19h.
Toutes les idées d'émissions et participations sont les bienvenues et nous vous invitons à nous retrouver le lundi de 12h15 à 13h15 en salle B249.
Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Burier.
Radio Burier.